Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 26 novembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Roch Marc Christian Kabore a été réélu président du Burkina Faso selon les résultats provisoires. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné l'offensive finale contre Mekele, la capitale du Tigré. En Turquie, 337 personnes ont été condamnées à la prison à vie dans le procès du putsch manqué de 2016. Les Américains fêtent Thanksgiving. Ils sont invités par les autorités à ne pas se déplacer en raison de la pandémie de Covid-19. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Burkina Faso, le président sortant Roch Marc Christian Kabore a été réélu dès le premier tour, comme en 2015. Les regards sont désormais tournés vers l'opposition qui a promis de ne pas reconnaître les résultats du scrutin en cas de victoire dès le premier tour. Bagassi Koura nous en dit plus.
Selon le président de la commission électorale, Newton Ahmed Barry, M. Kabore l'emporte dès le premier tour avec 57,87% des suffrages. Eddy Kombouégo du CDP de l'ex-président Blaise Compaoré, parti qui avait été exclu en 2015, arrive deuxième avec 15,48% des voix devant Zéphirin Diabré, 12,46%. Diabré, considéré comme le chef de file de l'opposition jusque-là. Selon les chiffres donnés par la CENI, le corps électoral a été ramené de 6 490 000 à 5 893 000 en raison de la non-ouverture de quelques 1300 bureaux de vote à cause de l'insécurité liée au groupe djihadiste. Quelques 800 autres bureaux qui auraient dû ouvrir sont restés fermés. Le clan présidentiel avait prédit, comme en 2015, une victoire au premier tour de ce scrutin. Sans fournir de preuves, l'opposition avait affirmé samedi qu'une fraude massive était en préparation, menaçant de ne pas reconnaître des résultats entachés d'irrégularité. Il est absolument inconcevable, après avoir parcouru tout le Burkina Faso, de penser avoir un parti gagnant dès le premier tour, avait notamment déclaré M. Diabré. Les éventuels recours doivent être déposés au Conseil constitutionnel dans les 7 jours à compter de l'annonce des résultats. Le Conseil constitutionnel doit ensuite proclamer les résultats définitifs dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai imparti pour les résultats.
L'opposition burkinabé a dit prendre acte des résultats provisoires annoncés par la CENI et se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre, a déclaré au nom de l'opposition Tayrou Barry. Arrivé cinquième lors d'une déclaration à la presse à Ouagadougou. L'élection présidentielle au Bénin se tiendra le 11 avril 2021. Conformément à la Constitution, la date du premier tour de la présidentielle a lieu le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale, a annoncé le gouvernement. À 5 mois du scrutin, l'opposition dénonce notamment une nouvelle disposition de la loi électorale qui impose aux candidats d'être parrainés par 16 maires ou députés. Le président du Niger, Mamadou Issoufou, d'anciens dirigeants et des diplomates étrangers, ont rendu ce jeudi un dernier hommage à l'ancien chef d'État Mamadou Tandja, décédé mardi à Niamey à l'âge de 82 ans. Ses obsèques ont été organisées dans la cour du palais présidentiel. Parmi les invités figurait le général Salou Djibo, chef de la junte qu'il avait destitué en 2010. Ses 10 enfants, des compagnons d'armes et des chefs traditionnels étaient également présents. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné ce jeudi le lancement de l'offensive finale contre Mekele, la capitale du Tigré, à l'issue d'un ultimatum de 72 heures. Le point avec Abdourahman Dia.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Abiy Ahmed a indiqué que la dernière porte de sortie pacifique de la junte du TPLF a été refermée par son arrogance. L'armée a reçu l'ordre de mener la dernière phase de l'offensive lancée le 4 novembre contre le TPLF, selon le Premier ministre qui promet que tout sera mis en œuvre pour que la ville de Mekele ne subisse pas de graves dégâts et pour protéger les civils. Il dit avoir donné aux dirigeants du Tigré de multiples opportunités de se rendre pacifiquement ces dernières semaines. Le Premier ministre qui affirme également que des milliers de combattants du TPLF se sont rendus sans que cela ne soit vérifiable, appelle les habitants de Mekele et ses environs à déposer les armes, à se tenir à l'écart des cibles militaires et à prendre toutes les précautions nécessaires. Il est difficile de vérifier la situation sur le terrain, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. L'ONU et plusieurs pays ont appelé au calme, mais Abiy Ahmed a fermement demandé à la communauté internationale de se garder de toute interférence dans les affaires internes de son pays.
Au Zimbabwe, au moins 40 mineurs illégaux étaient pris au piège après l'effondrement d'une mine d'or désaffectée, a annoncé ce jeudi la Fédération nationale des mineurs. L'accident s'est produit mercredi soir à Bindoura, à 70 km de Harare. Les mineurs travaillaient à l'intérieur de Rand Gold Mine lorsqu'un puits s'est effondré. 6 d'entre eux ont pu être dégagés des gravats et hospitalisés. Au Zimbabwe toujours, le nouveau maire de Harare a été arrêté pour corruption présumée, a annoncé son avocat. L'opposant Jacob Mafoumé du MDC est accusé d'avoir alloué frauduleusement des biens résidentiels, y compris à sa sœur, lorsqu'il était conseiller municipal en 2010. Il doit être présenté devant la justice vendredi sur la base d'abus de pouvoir liés à l'attribution de l'eau. Son parti a estimé que l'arrestation était une piètre affaire politique. Un fonds de solidarité a été lancé par l'OIF pour financer des projets à destination des femmes d'Afrique, des Caraïbes et du Liban, qui sont les premières victimes collatérales des effets de l'épidémie de Covid-19. Le fonds démarre avec une donation initiale de 3 millions d'euros et 59 projets ont été sélectionnés dans une vingtaine de pays, dont le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et le Maroc.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, un tribunal d'Ankara a condamné 337 personnes, dont des officiers et des pilotes de l'armée de l'air, à des peines de prison à vie. Ils sont coupables d'avoir participé à un coup d'État manqué contre le président Recep Tayyip Erdogan en 2016. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Selon le tribunal, ces personnes sont coupables notamment de tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel, de tentatives d'assassinat du président et d'homicide volontaire. Elles sont condamnées pour la plupart à une peine de prison à vie aggravée. Celle-ci comporte des conditions de détention plus strictes, une sanction qui a remplacé la peine de mort, abolie de l'arsenal juridique turc en 2004. Par ailleurs, 75 autres sont acquittés à l'issue de ce procès où comparaissent près de 500 accusés. Parmi les personnes condamnées figurent notamment des pilotes qui ont bombardé plusieurs sites emblématiques de la capitale Ankara, comme le Parlement, et des officiers et civils qui ont dirigé le coup de force depuis la base militaire d'Akinci dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Depuis le putsch avorté, les autorités traquent sans relâche les partisans du prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'en être l'instigateur. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées et plus de 140 000 limogées ou suspendues de leurs fonctions.
Les Américains fêtent Thanksgiving ce jeudi, le jour d'action de grâce dans la modestie. Coronavirus oblige. Ils ont été invités par les autorités à ne pas se déplacer en raison de la pandémie de Covid-19. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Rendez-vous majeur de l'année pour les Américains qui le fêtent généralement en famille. Thanksgiving se tient alors que le pays vient d'enregistrer plus de 2400 morts du coronavirus en 24 heures, soit au total plus de 262 000 morts liés à la maladie. Le président élu Joe Biden va célébrer Thanksgiving dans le Delaware avec sa femme, sa fille et son gendre. « Il y a un espoir réel, un espoir tangible, tenez bon, ne cédez pas à la lassitude », a-t-il dit dans un discours télévisé évoquant l'arrivée prochaine de vaccins qui devraient commencer à être administrés en décembre. En début de semaine, le président Donald Trump a honoré une tradition à la Maison-Blanche en accordant la grâce présidentielle à une dinde qui est ainsi épargnée en cette Thanksgiving, contrairement à des millions de ses congénères. Pour rappel, la Thanksgiving a été célébrée pour la première fois en 1621 par des protestants anglais ayant débarqué l'année précédente en Nouvelle-Angleterre. L'hiver très rude décime une partie des immigrants. Un traité d'aide mutuelle est signé avec les Amérindiens. En échange de protection contre les tribus rivales, les Wampanoags enseignent aux pèlerins la culture du maïs. L'automne suivant, la récolte est abondante. Et pour les remercier, le gouverneur anglais invite les Amérindiens à un repas de fête considéré comme la première Thanksgiving.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
Au Togo, l'autorité des régulations des communications électroniques et des postes annonce l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre de Togocell pour désagréments et dysfonctionnements graves sur les services T-Money, son service de transfert d'argent, et pour défaut d'information à l'endroit des consommateurs en violation des clauses de leur cahier de charges qui oblige les opérateurs d'assurer la disponibilité permanente des services autorisés et d'informer les clients en cas de perturbation. Le chiffre d'affaires de la société CFAO Motors Côte d'Ivoire, filiale de la multinationale du même nom, a connu une baisse de 6,616 milliards de francs CFA au premier semestre 2020 comparé à la même période de 2019. L'Angola a annoncé son intention de céder des parts dans la société pétrolière nationale Sonangol et dans la société diamantifère Endiama d'ici la fin de 2021. Selon la ministre des Finances, le but de la vente est de lever des fonds et relancer l'économie angolaise très affaiblie. L'opération entre dans le cadre d'un plan de vente des 30 entreprises, d'un programme qui s'étendra jusqu'en 2022. L'Angola est engagée à renégocier sa dette avec ses principaux créanciers, notamment avec le Fonds monétaire international.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. C'est une première dans l'histoire. La finale de la Ligue des champions de la CAF opposera demain vendredi à 19h temps universel au Caire deux clubs d'un même pays, le Zamalek et Al Ahly d'Égypte. Al Ahly a remporté 8 fois le titre de la Ligue des champions et 42 fois celui de champion d'Égypte. Le Zamalek a empoché le titre africain 5 fois, à égalité avec le club congolais du tout-puissant Mazembe et compte 12 titres égyptiens. Cette rivalité historique entre Al Ahly et Zamalek s'est encore exacerbée après leur rencontre de Supercoupe d'Égypte en septembre 2019, remportée par Al Ahly 3-2. Le match avait été suivi d'incidents. Lundi, le ministre égyptien des Sports, Ashraf Sobhi, a appelé à une rencontre pour dire non au fanatisme au stade international du Caire. Pour finir, nous revenons sur les hommages rendus à Diego Maradona, mort hier à l'âge de 60 ans. Nous prenons la direction d'un pays africain qui a affronté l'Argentine del Pibe de Oro lors du Mondial 1990, le Cameroun. Le Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Gilentap.
Lorsqu'ils apprennent le décès de Diego Maradona, les jeunes footballeurs de l'académie à venir à Yaoundé sont au bord de la consternation.
C'est une grande tristesse. Dans le monde du football, vient de perdre l'un de ses anciens succès.
Vraiment, c'est malheureux. C'est un très grand joueur.
C'est très, très touchant. Et ça nous laisse en isolation.
Les Camerounais ont encore en mémoire le souvenir de la confrontation entre le Cameroun et l'Argentine. Le 8 juin 1990, à match d'ouverture de la Coupe du Monde en Italie. Ce jour-là, le meneur de jeu de l'équipe nationale d'Argentine a eu maille à partir avec une robuste équipe du Cameroun. Le défenseur Bertin Ebouélé faisait partie du 11 entrant du Cameroun face à l'Argentine.
Nous partions ce jour-là pour essayer de limiter les dégâts face au champion du monde avec son meilleur joueur. Nous avons eu des consignes, c'était de ne pas laisser des espaces. Maradona, il y a des espaces, alors il vous prend 1, 2, 3 et c'est ce que nous avons essayé de faire. Lorsqu'il passait un premier joueur, il fallait que le deuxième stoppe le dribble ou empêcher le ballon d'avancer. Et je crois que ça nous a beaucoup réussi.
Mais les déboires de Diego Armando Maradona avec la drogue ont quelque peu écorné sa réputation de grand footballeur. Thomas Tsungi est éducateur et entraîneur de football.
La drogue et le football, ça ne marche pas ensemble. Pour moi, en tant que sportif, en tant qu'entraîneur de football, je ne peux pas encourager les jeunes à se droguer. Parce que la drogue, c'est la tricherie au football. Le football, c'est le travail.
Cependant, la star argentine reste un modèle pour les jeunes footballeurs qui préfèrent s'attarder sur les aspects positifs du disparu. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a été réélu avec 57,87% des voix. Il est suivi d'Eddy Kombouago et de Zéphirin Diabré, selon les résultats provisoires de la commission électorale. Des observateurs affirment qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, tout en reconnaissant que ces élections se sont tenues dans un contexte sécuritaire difficile. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le président de la commission électorale annonçant la réélection de Roch Kabore. Il remporte la présidentielle avec 57,87%, ce qui signifie qu'il est réélu dès le premier tour. Le coup KO, comme chantaient ses partisans, est donc confirmé. Simon Compaoré est le président du MPP, parti au pouvoir.
Notre candidat, qui vient d'être élu provisoirement, va devenir, après le dernier mot qui revient au Conseil constitutionnel, le président de tous les Burkinabés. Des perdants comme des gagnants.
J'étais présumé. Perdante.
Monique Kam, la seule femme candidate sur 13, n'a remporté que 0,53% des voix.
En tant que femme, l'opinion a constaté avec moi la mobilisation des hommes et des femmes à mes côtés pendant cette campagne. Des jeunes nous ont soutenus, des hommes nous ont soutenus, la population burkinabé, des burkinabés nous ont accordé leur voix. Et qu'est-ce qu'on retient de cette participation? C'est que l'image de la femme a été relevée davantage.
Cyprien Nanema est le représentant du candidat Ambroise Farama.
Nous avons un regret parce que nous étions le candidat du changement, le candidat de la rupture. Et malheureusement, nous constatons encore qu'il y a des difficultés tant au niveau des gouvernants qu'au niveau des populations. Au niveau des gouvernants, nous n'avons pas constaté de rupture, c'est la continuité. Et quant aux populations, le changement de mentalité que nous attendons tant n'est pas encore au rendez-vous.
Pour les observateurs, même s'il y a eu des dysfonctionnements et autres irrégularités, il faut se féliciter de l'organisation des scrutins dans un pays en proie au terrorisme. Maître Alidou Ouédraogo est le président de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'organisation des élections, qui a déployé plus de 3000 observateurs.
Il faut s'en féliciter parce que réussir des élections dans un contexte aussi difficile, marqué par l'insécurité et la COVID-19, ce n'est pas facile. Je vous demande à regarder ailleurs, autour de nous et plus loin, parce que les élections sont toujours difficiles. Et quand on arrive à les organiser sans une attaque terroriste, sans une augmentation de la COVID-19, il faut remercier Dieu et s'en féliciter.
Le Conseil constitutionnel devra valider ses résultats dans un délai de 15 jours. Les candidats ont 7 jours pour déposer les éventuels recours devant ce conseil. La réaction de l'opposition ne devrait pas tarder. Avant les résultats, elle avait dénoncé des cas de fraude et menacé de ne pas reconnaître les résultats en cas de victoire du président sortant dès le premier tour. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Niger, les obsèques de l'ancien président Mamadou Tandja se sont déroulées ce jeudi. Décédé mardi à l'âge de 82 ans, M. Tandja a dirigé le pays de 1999 à 2010. Un hommage national lui a été rendu avant d'être porté en terre dans son village natal de Mensoroa, dans l'est du pays. Un reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Allahu Akbar.
C'est au palais présidentiel que les obsèques se sont déroulées en présence du chef de l'État Issoufou Mahamadou, des présidents des institutions et des responsables civils et militaires du pays. Honneur militaire dû à son rang, puis lecture de l'oraison funèbre par l'ancien Premier ministre Maman Oumarou.
Le peuple te reste reconnaissant. C'est à ce peuple nigérien éploré que tu manques aujourd'hui. Avec ton rappel à Dieu, c'est tout le pays pour qui tu restes un patriote convaincu et un dirigeant visionnaire. Qui devient orphelin.
Parmi les personnalités présentes à la cérémonie, l'ancien président de la République, Mahamane Ousmane.
Le roi qui a tout donné pour ce pays, qui a fait le maximum qu'il puisse faire, un don de soi, avec beaucoup d'abnégation et de sacrifices. Que ce nom repose en paix.
Mais aussi des compagnons et des camarades de lutte du président Tanja Mamadou.
Que Dieu ait son âme et qu'il repose en paix.
C'est un homme qui a su associer dans l'histoire de notre jeune république, jeune pays, la sagesse du président Diori, la rigueur du général Koutché. Il a su associer ces deux valeurs de ces deux grands anciens qui l'ont précédé et lui-même. Éduqué dans la pure tradition de nos valeurs, il a dû associer tout cela pour se mettre au service du Niger et rien que du Niger.
Le corps a ensuite été transporté par l'avion présidentiel dans son village natal de Ménessoroua, dans la région de Diffa, où il repose désormais. Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Adieu Baba Tanja. Repose en paix.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À l'occasion de Thanksgiving, le président élu américain Joe Biden s'est adressé à la nation mercredi, assurant que le pays parviendra à surmonter la pandémie de COVID-19. Les États-Unis font face à une forte hausse du nombre d'infections, une situation à l'origine d'une insécurité alimentaire croissante. Un reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de la Voix de l'Amérique à la Maison Blanche. Le récit est de Lionel Gaïma.
Alors que les États-Unis connaissent une explosion de nouveaux cas de COVID-19, de nombreux Américains défient les conseils des experts en santé publique pour voyager durant la fête de la Thanksgiving. Appelant ses compatriotes au sacrifice mercredi, le président élu Joe Biden les a exhortés à redoubler d'efforts et à s'engager à nouveau dans la lutte contre la propagation du COVID-19.
Don't let yourself surrender to the fatigue, which I understand.
Ne cédez pas à la fatigue.
I know we can.
Je sais que nous pouvons battre et battrons ce virus. L'Amérique ne perdra pas cette guerre.
Un peu plus tôt cette semaine, le président Donald Trump a honoré une tradition de la Maison Blanche. Il a accordé la grâce présidentielle à une dinde qui est ainsi épargnée en cette Thanksgiving, contrairement à des millions de ses congénères.
En cette Thanksgiving, nous exprimons notre gratitude éternelle aux médecins, infirmiers, agents de santé et scientifiques qui ont livré la guerre au virus de Chine et nous rendons grâce pour les vaccins et les thérapies qui viendront bientôt à bout de la pandémie.
Le mets traditionnel de la Thanksgiving est la dinde rôtie, mais de nombreux Américains auront du mal à la servir à table cette année. Les longues lignes devant les banques alimentaires illustrent l'insécurité alimentaire croissante à laquelle font face les États-Unis en cette pandémie de COVID-19. Mary Favela est une habitante de Chicago.
Il n'y a vraiment aucun moyen de faire entrer de l'argent si vous ne travaillez pas.
Selon les projections de Feeding America, un réseau de 200 banques alimentaires, plus de 50 millions d'Américains connaîtront la faim en 2020, alors qu'ils étaient 35 millions avant la pandémie. Les États-Unis souffrent également d'une augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l'arrivée de l'hiver. À ce jour, près de 13 millions ont été dénombrés au total, dont plus de 262 000 décès.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous bien sûr sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Entre le 21 septembre et le 11 novembre de l'année 1621, 53 hommes, femmes et enfants anglais ont été rejoints par 90 Indiens américains dans une fête d'action de grâce pour leur première récolte dans leur colonie de Plymouth, dans ce qui est aujourd'hui l'État du Massachusetts. Ils avaient tant de choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Juste un an plus tôt, à la mi-novembre 1620, ils faisaient partie d'un groupe de 102 colons et 30 membres d'équipage ayant atteint les côtes de l'Amérique du Nord, à plus de 350 km au nord-est de leur destination choisie. Malgré tout, les colons optimistes ont décidé de s'installer sur la terre ferme de l'autre côté de la baie de Cape Cod, où ils avaient jeté l'ancre. Ils ont entrepris de créer une communauté dans laquelle ils pouvaient vivre selon leurs propres croyances religieuses. Cette première année avait été difficile, menaçant de détruire la colonie avant qu'elle n'ait pris racine. En une année, près de la moitié des 102 colons a péri de famine, de maladie et des rudes conditions de l'hiver. Mais l'été a apporté une bonne récolte et en automne, 22 hommes, 4 femmes, 9 adolescents, 4 adolescentes et 12 enfants se sont réunis pour célébrer avec leurs voisins indiens de la tribu des Wampanoag. Le Massachusetts n'est pas le premier État a revendiqué la célébration de la première Thanksgiving, fête d'action de grâce. De nombreux documents historiques indiquent que les explorateurs espagnols et d'autres colons anglais avaient tenu des services religieux d'action de grâce en Floride, au Texas, au Maine et en Virginie, bien avant 1620. Toutefois, c'était des célébrations isolées qui n'ont pas survécu à l'épreuve du temps. À la suite d'un vigoureux plaidoyer de l'État du Massachusetts, la Thanksgiving moderne a été officiellement établie dans tous les États en 1863 par une proclamation présidentielle d'Abraham Lincoln. La célébration de cette fête a été poussée à la quatrième semaine de novembre par le président Franklin Delano Roosevelt. La Thanksgiving a commencé comme une prière de reconnaissance par les immigrants qui, sans le soutien de leurs voisins indiens, n'auraient probablement pas survécu durant leur première année en Amérique du Nord. Bien que la Thanksgiving soit traditionnellement une occasion de se réunir avec les proches et les amis, la menace actuelle de la pandémie du COVID-19 fera en sorte que beaucoup de gens célébreront seuls à la maison.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.